L'actu des oubliés. Saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans le 12e épisode de l'Actu des Oubliés. Nous poursuivons cette semaine notre volet consacré au Sénégal après le report de l'élection présidentielle. La semaine dernière, nous avons vu comment celui-ci est survenu après plusieurs années d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et d'eugénisme électoral de la part du pouvoir exécutif. Phénomène notamment mis en lumière par l'ouvrage de Fanny Pigeot et de Ndongo Sambasila de la démocratie en France-Afrique. Cette semaine, nous reprenons au 3 février 2024, jour où le Sénégal se retrouve plongé dans le noir. Le président Macky Sall annonce donc qu'il reporte l'élection présidentielle prévue 3 semaines plus tard. Une annulation plutôt, puisqu'aucune date n'est annoncée pour fixer une nouvelle échéance, et à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne. La raison ? Un conflit entre le Conseil constitutionnel et le pouvoir exécutif, qui accuse les juges du Conseil d'être corrompus et d'avoir indûment annulé la candidature de Karim Ouad. Durant cet épisode, nous retrouverons Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International pour le Sénégal et le Sahel, Florian Bobin, étudiant-chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Claire Rivière, journaliste indépendant notamment pour Afrique 21, qui nous éclaire ici sur les raisons profondes de cette annulation.
Tu parlais tout à l'heure du livre de Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila, donc un économiste sénégalais très critique du franc CFA. Il dit que voilà, on considère souvent le Sénégal comme une vitrine démocratique, en tout cas le pays a cette image-là, mais il dit en fait on confond souvent la stabilité et la démocratie. C'est pas parce qu'un pays n'a jamais connu de coup d'État que c'est une démocratie. Prenez le Cameroun par exemple, qui a le même président depuis Paul Biya, qui est là depuis le début des années 80, ça fait plus de 40 ans qu'il est là. Le Cameroun n'est absolument pas une démocratie, pourtant il n'y a jamais eu de coup d'État. Ce qu'explique Ndongo Sambasila, c'est ce qu'il remarque pour lui. La stabilité du Sénégal, cette stabilité entre guillemets démocratique, s'explique par deux facteurs. Le premier pour lui, c'est que le Sénégal n'avait pas de pétrole, n'avait pas de gaz, n'avait pas de grandes ressources qui font que ça aiguise moins d'appétit. Et ça, c'est en train de changer parce que il y a des champs de pétrole offshore qui devraient être mis en service d'ici quelques mois, des champs de gaz aussi qui vont être exploités d'ici quelques années. Donc ça aiguise des appétits. Et l'autre chose qui explique, d'après Ndongo Sambasila, la stabilité sénégalaise, la stabilité politique, c'est qu'il n'y a jamais eu effectivement de dirigeants clairement opposés au système france-africain, au système néocolonial, perdure depuis des dizaines d'années. Et c'est vrai que là, on est dans une situation un peu inédite où Bassirou Diomaye Faye, qui est donc le candidat du PASTEF, le remplaçant d'Ousmane Sonko, qui ne peut pas se présenter à cause d'une condamnation en diffamation, Bassirou Diomaye Faye est considéré comme peut-être le favori, en tout cas un des grands favoris. Et c'est probablement parce que Macky Sall craignait la victoire de Bassirou Diomaye Faye face à son dauphin, à Madouba, probablement pour ça que Macky a reporté l'élection, quoi. Voilà, ce que disait Ndongo Sambasila, c'est que lui, pour les besoins du bouquin avec Fanny Pigeot, ils ont listé tous les dirigeants qui ont été au pouvoir dans les 16 pays de la zone franc historique depuis les indépendances. Et ce qu'il remarque, c'est qu'il y a même un dirigeant porteur d'un discours vraiment radical contre la France-Afrique qui ait réussi à arriver au pouvoir par les urnes. C'est jamais arrivé, il n'y a pas de précédent. Les seuls qui ont réussi à arriver au pouvoir... ce sont des gens qui sont arrivés au pouvoir par les armes, par des coups d'État. On peut penser par exemple à Thomas Sankara au Burkina dans les années 80. Donc voilà, si Bassirou Diomaye Faye arrive finalement à être élu, ce sera une première, quoi.
Si l'élection est annulée, c'est donc en grande partie parce qu'elle a des chances d'être inédite et historique. Autre symptôme de la panique qui s'empare des libéraux au pouvoir, c'est leur volonté soudaine de serrer les rangs, y compris entre partis qui se font habituellement concurrence, comme nous l'explique Florian Bobin.
La réponse à ce moment potentiel de bascule, c'est la réunification de la famille politique libérale. Puisque la coalition qui est au pouvoir aujourd'hui, Beno Bokiaka, qui est menée par le parti du président Macky Sall, avait en 2012 battu dans les urnes le Parti démocratique sénégalais de Ablaye Wade. Et dans cette séquence que l'on voit depuis le début du mois de février, il y a eu une réunification, une sorte de coalition que l'on pourrait croire contre nature au vu des institutions, entre la coalition Beno Bokiaka et le PDS, les deux grands partis de la famille libérale étendue, qui, face au péril, se sont ralliés et se sont coalisés pour tenter de retarder, d'annuler l'élection, d'invalider des candidatures, de revalider des candidatures. Mais tout cela est très symptomatique de la potentielle bascule dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Folli mo la fal nga fatte makki xamo yela ñola yegal nga jappé ñu golo tay ñu waccé la bop ye teju kanam yi fasu xol yi bax bay saxar askan bi ndelu ne duñ ko nangu accu la bo mën ti jaar dox sa nombal tank gëna yomb li ngay yotu suñu démocratie nga bëgg sank nel motu.
Le 5 février, l'Assemblée nationale reporte finalement le scrutin au 15 décembre. Le jour même, le pays est comme tétanisé. Les rues restent désertes. Pourtant, l'ensemble des secteurs de la société civile, jusqu'aux religieux et au patronat, s'insurgent de cette décision par des voix officielles, mais également sur les réseaux. L'opposition crie au coup d'état institutionnel et réagit par ses multiples voix, telles que Khadija Maïkor Diouf sur France 24.
La vérité, c'est que les élections doivent se tenir ce 24 février 2024 pour qu'on dise enfin au revoir à ce régime de Macky Sall qui n'a comme bilan que des morts, que des prisonniers, mais surtout une dette qui avoisine les 16 milliards et une démocratie à terre. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils restent mobilisés, pour que ces élections puissent se tenir dans le calme et la paix.
On écoute également Ousmane Diallo.
À partir du 3 février, on a vu une mobilisation inédite de plusieurs corps de la société. Il y a eu la société civile, il y a eu les universitaires sénégalais, qui ont fait plusieurs tribunes pour dénoncer la suspension du processus et les répressions qu'il y a eu. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'a pas vu forcément ces dernières années et qui était sans doute motivé par l'ampleur, le caractère unilatéral et abusif de la suspension du processus électoral. On a vu des leaders qui n'étaient pas forcément politiques, des personnalités médicales qui s'étaient illustrées par la gestion de l'épidémie Covid, prendre une tournure, un positionnement beaucoup plus politique à cause de la crise qui était créée.
Et puis, élément supplémentaire, il y a également toute la mobilisation qui s'est faite sur les réseaux sociaux, qui certes peut sembler comme étant un peu distant du terrain, mais la vigie numérique qui s'est établie, la pression qui s'est faite sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Free Sénégal, a eu en fin de compte quand même un retentissement, notamment médiatique auprès des médias internationaux, au point où le président, dans un entretien, forme de simulacre d'entretien qu'il a accordé à la presse nationale, exposait son désarroi vis-à-vis du fait qu'il y avait une telle pression internationale venant des médias, venant d'acteurs internationaux, de chancelleries, qui s'étaient montrés plus ou moins actifs dans la dénonciation de sa décision d'annuler l'élection.
Dès le 6 février, le Sénégal descend dans la rue. Chaque manifestation est durement réprimée. Le rond-point Saint-Lazare à Dakar, où les candidats ont appelé à se rassembler, n'est même pas accessible. À proximité, des personnes sont arrêtées et tabassées, à l'image d'un candidat indépendant à l'élection présidentielle, qui apparaît couvert de contusions. Alors, c'est dans les quartiers et dans les rues parallèles que des rassemblements spontanés se tiennent. Les pneus et les plots de chantier brûlent, tandis que la police fait la chasse et gaz à tout va. Vendredi 9, un cortège traverse le quartier Cité des Eaux à Dakar et incendie des engins de chantier. Ailleurs, dans la capitale, les forces de l'ordre ouvrent le feu à balles réelles. Un premier décès est à déplorer. La même journée, un second survient à l'université de Saint-Louis. Samedi 10, à Ziguinchor, un jeune de 16 ans décède à son tour d'une balle à l'abdomen. Partout dans le pays, les rassemblements sont dispersés. Nulle part la contestation, même pacifique, n'est tolérée. Le mouvement estudiantin tente à son tour de s'organiser, mais le pouvoir s'était préparé à une élection contestée, comme en témoigne la fermeture prolongée de l'université de Dakar depuis les émeutes de juin 2023. On écoute encore Florian Bobin.
La fermeture de l'université de Dakar est sans aucun doute motivée par des volontés de réprimer le corps étudiant politisé. La suspension des enseignements a été effectivement motivée par l'approche de l'élection présidentielle qui s'annonçait déjà contestée. Pour ce qui est de la mobilisation dans les autres campus, il y a eu des mouvements de mobilisation, notamment à Saint-Louis, qui ont été mortellement réprimés, avec deux étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui ont été tués par des gendarmes. Il y a eu des assemblées générales qui sont mises en place, il y a eu des veillées citoyennes nocturnes. Mais il faut savoir que le calendrier universitaire dans toutes les universités du Sénégal a été profondément affecté par des mesures politiques. un calendrier qui est à la traîne du fait de décisions politiques de fermeture et de suspension temporaire des enseignements. Il y a aussi des conditions économiques qui font que c'est plus compliqué de se mobiliser sur le long terme. Mais surtout, pour les étudiants qui effectivement sont mobilisés, il y a des mesures administratives, parfois même qui vont jusqu'à l'expulsion de l'université, qui font partie du champ des mesures de répression de la part de l'administration universitaire, qui sont évidemment motivées et soutenues par l'autorité politique. Donc la mobilisation se fait sous diverses formes, comme je le disais, parfois par des formes un peu plus indirectes ou du moins non violentes. Mais lorsqu'il y a des assemblées générales, lorsqu'il y a des piquets de grève, lorsqu'il y a des formes de résistance plus actives, celles-ci sont systématiquement réprimées.
Yag lañ ci def croix, gaspillage de notre fric, institution budgétivore, clientélisme politique, vie de suñu caisse trésor, ma ki nek ka d'école, ñepp ndol ka bi ciol, ëpp na tol, ra le bol, ce plan émergent, mujna énervant. Que du vent et fainéant, qui truant, nous perte temps. Le casement, transhumant, gouvernement, qui nous ment, le maniement tout le temps. C'est ça ton bilan.
Pour Claire Rivière, il faut cependant distinguer les tentatives de mobilisation de ce février 2024 des précédentes vagues populaires, et ce, pour plusieurs raisons.
Il semble qu'il faut distinguer les manifestations 2021-2023 de celles qu'on a connues là plus récemment, ce mois de février. D'une, le mouvement, les manifestations étaient beaucoup moins massives et beaucoup moins spontanées. Et de deux, j'ai l'impression que les gens qui sont allés manifester, à qui moi j'ai pu parler, c'était plutôt la classe moyenne, on va dire, qui peut-être là se battait plus pour une idée de faire tourner la démocratie, en tout cas la démocratie représentative, voilà, avec toutes les limites qu'elle a. Il y a eu des plateformes de la société civile qui se sont montées et qui ont notamment tenté d'organiser des journées villes mortes ou des grèves générales. Et ça n'a pas du tout marché, notamment parce que on est dans une économie où beaucoup de gens vivent au jour le jour, quoi. Beaucoup de gens travaillent dans l'économie informelle. Et donc ça permet pas de faire des mouvements qui vont bloquer l'économie pendant une longue période continue.
Oui, et j'ajouterai à tous ces éléments qu'il y a eu aussi une désorganisation de l'opposition à la suite des arrestations qui ont eu lieu durant presque toute la seconde moitié de l'année 2023. Les principaux leaders ont été arrêtés, les maires qui jouaient un rôle politique important dans leur commune ont été arrêtés, et il y a eu une véritable répression sur les forces de l'opposition qui ont sans doute désorganisé leur capacité à se mobiliser et à créer des coalitions avec d'autres acteurs. En plus de bien sûr l'appréhension de perdre la vie en participant aux manifestations, ou bien même en étant à côté des manifestations, qui a sans doute dissuadé pas mal de personnes à se mobiliser comme en juin 2023. Parce qu'il faut le rappeler, ce qui s'est passé en juin 2023, la répression, l'intensité des manifestations et de la répression par les forces de défense et de sécurité n'a pas été vue par peut-être deux générations de Sénégalais. Donc c'est quelque chose qui était inédit et qui a sans doute traumatisé pas mal de monde par rapport à la violence d'État.
Quand dans les trois dernières années, vous avez eu 60 morts et dont pas loin de 60 par balle, tués par soit les forces de l'ordre, soit des hommes civils qui travaillent avec les forces de l'ordre, voilà, ça n'incite clairement pas à aller manifester, quoi. Ça fait peur et ça se comprend tout à fait d'avoir peur.
Abus de pouvoir, interdiction de marche. Dérive autoritaire, si rien ne marche.
Antoine.
Administration partisane et militante. Sous DGEEP d'Ole et Justice.
Plus de 1000
détenus. Excès de zèle. Enquête bouillante.
Les journées de résistance se multiplient et la pression s'accentue sur le pouvoir exécutif. Le 15 février, le Conseil constitutionnel exige un vote dans les meilleurs délais. Le 17, une grande manifestation est autorisée pour la première fois depuis le mois d'octobre. Macky Sall prend la parole plusieurs fois. Il prétend que vouloir se maintenir au pouvoir n'est pas dans ses intentions, que cela ne correspond pas à sa personnalité, qu'au contraire, il défend un processus inclusif et apaisé qui permette un passage de relais dans la douceur et dans la paix. Entre-temps, une quatrième personne meurt sous les balles de la police. Le 22, il promet de se retirer le 2 avril, la date officielle de la fin de son mandat, mais sans programmer d'élection. C'est une commission de dialogue national qui devra se réunir, estime-t-il. Quelques jours plus tard, celle-ci conclut à la nécessité d'organiser une élection présidentielle dans les prochains mois, tout en préconisant la date du 2 juin. Proposition immédiatement rejetée par l'opposition. Un front de résistance est constitué par différents candidats et par des associations de la société civile pour structurer la lutte de longue haleine qui s'annonce. Elle marche une première fois le 29 février et accentue la pression sur l'exécutif. Et après une nouvelle demande du Conseil constitutionnel de poser une date d'élection avant le 2 avril, Macky Sall cède et pose la date du 24 mars.
Il y a probablement un mélange de raisons qui ont fait que finalement Macky Sall a daigné finalement donner une date d'élection avant la fin de son mandat. Ouais, il y a la rue, il y a la mobilisation des intellectuels, comme le disait Ousmane. Il y a le fait, je pense aussi, que l'opposition politique était quand même très unie. Macky Sall a tenté de faire un dialogue national pour proposer une date pour reporter l'élection. Il y a eu 16 candidats sur les 19 qui ont refusé d'aller à ce dialogue. Quand même une force collective importante. Et par ailleurs, voilà, il y a aussi peut-être le rôle des influences étrangères, quoi. Après, est-ce que tout ça va suffire? Est-ce que l'élection qui va arriver va vraiment être transparente et fair-play? Ça, c'est vraiment une autre histoire et c'est vraiment pas gagné. Macky Sall nous a quand même habitué le public à sortir de sa poche. Des choses surprenantes, donc on est peut-être pas au bout de nos surprises. Et par ailleurs, voilà, avant même que Macky Sall reporte l'élection le 3 février, on était quand même face à une situation où il pouvait y avoir des doutes sur la sincérité de l'élection à venir. Quand Macky Sall a annulé l'élection le 3 février, on était à 3 semaines de la présidentielle, le fichier électoral n'avait toujours pas été publié. Donc, c'est-à-dire la liste des gens qui sont autorisés à voter n'avait toujours pas été publiée. Donc, c'est quand même plutôt inquiétant. Voilà, a priori, on va vers une élection, mais quelle sera la sincérité de cette élection? Ça, on ne sait pas encore. Dictateur, ton masque est tombé. Mandat dépôt, mandat remont. Capot, le dépôt, c'est faux, il a été faux. Régime tapelé, programme tacalé. Projet capoté, surfacturé. Nous endetté, avenir saboté. État policier, Ablaye Touré, torturé. Tiré, maté, maltraité. Khalé, y'a des flènes boucliers. Chaque jour quotidien, il dit le jambalier, rime petit poste. Faux débat, mensonge d'État, mortal combat. T'es à dire, aïe, couba.
Macky Sall prévoit en revanche que le vent tourne et fait voter par le Parlement une loi d'amnistie concernant tous les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Elle prévoit donc de gracier tant les prisonniers politiques que les commanditaires et les auteurs de la violence d'État commise dans la période. Et malgré le fait que l'adoption d'une telle loi permette la libération de nombreuses personnes issues de ses rangs, l'opposition, PASTEF compris, vote contre. Pour Ousmane Diallo, cette loi est un déni de justice pour les familles des victimes.
On n'est pas arrivé au bout de nos peines, en particulier pour les victimes et leurs familles. Et il est important que cette loi d'amnistie-là soit abrogée par les autorités qui sont élues après le scrutin du 24 mars. Et que bon, justice, vérité et transparence puissent être les fondements de ce qui figure dans l'exposé des motifs de la loi, à savoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Je pense que c'est très important parce qu'on parle de près de 60 morts, plus de 60 morts, plusieurs par balle, dans les conditions où les allégations sérieuses sur la responsabilité des forces de défense et de sécurité sont pointées du doigt. On ne peut pas juste voter une loi d'amnistie, effacer les faits et dire que... par souci de réconciliation nationale et de dialogue qui sert de socle à la société sénégalaise, on va passer outre toute cette violence d'État-là. Parce que ce qui se passe, c'est que ces procédures-là, où l'État commet des violations flagrantes, des détentions, des crimes de sang, ensuite vote des lois d'amnistie pour se disculper de toute responsabilité, sans pour autant reconnaître aux victimes leur statut de victime, n'a fait que renforcer l'impunité. Et l'autre argument qui veut que cette loi d'amnistie était nécessaire pour libérer les gens qui ont été arbitrairement détenus et inculpés, en fait, je me porte en défaut par rapport à cette assertion parce qu'il n'y a pas besoin de loi d'amnistie pour libérer les détenus politiques. Si la justice fait bien son travail, si on considère les dossiers et qu'il n'y a rien qui justifie leur détention, il faut libérer ces gens. La plupart des détenus politiques, c'est des gens qui ont participé à des manifestations, qui ont été envoyés en instruction. Vu qu'il y a très peu de cabinets d'instruction, ça prend beaucoup de temps pour examiner les dossiers. Et sans doute, il y a une volonté politique de garder ces gens-là en détention par le biais de ce procédé-là, alors que la plupart, et on l'a vu, ont été libérés parce qu'il n'y avait rien contre eux. Et ceux qui ont été traduits devant le tribunal des flagrants délits ont été simplement libérés. Parce qu'il n'y avait aucune raison de les garder en détention.
Le 15 février déjà, Macky Sall avait fait libérer des dizaines de prisonniers politiques sous la pression civile et internationale. Cette sortie de prison massive dévoilait par la même occasion nombre d'injustices commises par le régime, à l'image de celle vécue par Mohamed Ndiaye, arrêté alors qu'il ne participait même pas à une manifestation, libéré sans recevoir une seule explication et qui confiait à France 24
« J'ai été arrêté le 16 mars 2023 et j'ai été relâché le 15 février. Je n'ai rien fait et on m'a laissé 11 mois en prison. Comment on va rattraper ce temps perdu ? À cause de l'injustice que j'ai subie, s'il y a une manifestation, je serai sur le terrain pour manifester. Je suis pro Sonko maintenant, alors qu'avant d'être incarcéré, je ne m'intéressais pas à la politique. Maintenant, je vais m'y mettre à 100%. »
La question que pose cette facilité avec laquelle un président de la République peut ingérer dans les prérogatives du pouvoir législatif, cette façon qu'il a par décret de pouvoir libérer du jour au lendemain des détenus qui pourtant avaient été arbitrairement incarcérés pendant des mois, voire des années, pose la question évidemment de la concentration des pouvoirs, qui est un vieil héritage issu de la Ve République française qui elle-même a été calquée pour la première constitution du Sénégal, ou la deuxième constitution du Sénégal plutôt, adoptée en 1963. Cette concentration des pouvoirs est au fondement des institutions actuelles et il semble que dans les revendications, il y a une volonté de rupture avec le pacte néocolonial, avec les vieilles pratiques répressives, avec les différentes manœuvres pour s'accaparer le pouvoir, pour s'accaparer les ressources du pays. Mais dans les revendications aujourd'hui, il y a aussi la question de la déconcentration des pouvoirs et de la mise en place d'une démocratie plus représentative. Et à mon sens, ces pratiques risquent de perdurer si le nœud du problème, qui est la concentration des pouvoirs, qui est la possibilité pour l'exécutif d'ingérer dans les pouvoirs législatifs et judiciaires, si ce problème n'est pas attaqué, le Sénégal n'est pas à l'abri d'une nouvelle séquence comme on la connaît d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Milliard bin ko balé sa mère bin ko falé makina genn ci lumné no ko lu xamné doulé nguur ya la ko joxé ay nga ñaar ba paré gënal abay ñu balé mbal mi yépp ñu balé milliard bin ko balé sa mère bin ko falé makina genn ci lumné no ko lu xamné doulé nguur ya la ko joxé ay nga ñaar ba paré gënal abay ñu balé mbal mi yépp ñu balé milliard bin ko balé.
Les initiatives citoyennes se sont multipliées dans le pays sous le règne de Macky Sall. Le collectif des détenus politiques travaille par exemple à obtenir des indemnisations en faveur des prisonniers politiques et des familles de victimes de la répression. Victimes qu'il convient tout d'abord d'identifier. Ainsi, si le chiffre officiel des victimes de la répression de début juin 2023 est établi à 16 décès, pour Moussa Ngom, il y en a eu 29 en 4 jours. Ce journaliste indépendant a initié le projet Cartographie Sénégal, en réaction à l'impunité des forces de sécurité en mars 2021. Lorsque des émeutes éclatent à nouveau 2 ans plus tard, Moussa Ngom décide donc de construire en direct une cartographie pour raconter l'histoire des personnes assassinées par la police. Face à l'ampleur du travail réalisé, il contacte des collègues reporters, des cartographes et des scientifiques de la donnée afin d'échanger avec les proches de chaque défunt. Il raconte à Afrique 21
« En attendant que la justice veuille bien s'en saisir, ce dont je doute absolument, il revient à la presse et à la société civile de s'emparer de ce sujet afin qu'on puisse garder la mémoire de ces décès-là. Dans le feu de l'action, nombre d'informations non vérifiées ont circulé sur les réseaux sociaux. Comme préalable fondamental, nous avons tenu à établir un lien sûr et direct avec les familles des victimes afin d'authentifier les décès survenus. Il nous fallait recueillir les détails sur l'état civil, l'âge et par la même occasion, dresser le portrait des victimes. »
Et c'est aussi avancer vers la transformation de la société, parce que l'impunité est comme un permis de tuer accordé aux forces de sécurité, une sinistre promesse que la violence d'État se poursuivra. Aujourd'hui, la carte interactive de Cartographie Sénégal est en ligne pour recenser les victimes, les dates et les circonstances de leur mort. Pour chacune d'entre elles, quelques lignes expliquent qui elles étaient, pour leur rendre hommage, pour conserver la mémoire et continuer d'espérer que justice soit faite.
No justice.
No.
No peace, more justice, more peace.
Frère, mon peuple,
frère, mon peuple,
frère, mon peuple. Fight for your freedom,
fight for your freedom,
fight.
Cette vague de fond qui traverse le Sénégal, c'est aussi pour Alioune Tine sur France 24 l'émergence d'une jeunesse qui, face à la soif de pouvoir de ses dirigeants successifs, choisit de se politiser et de prendre position.
Le fait politique nouveau, c'est, si vous voulez, cette espèce d'émergence massive de la jeunesse dans la politique. C'est les jeunes frères et les neveux de Yanamar qui aujourd'hui se présentent et prennent leur destin en main derrière Sonko et derrière aussi Pastef.
Cette évolution de la société sénégalaise est également reflétée par l'histoire du mouvement Yanamar, dont l'un des cadres figure d'ailleurs parmi les prisonniers politiques libérés le 15 février. Le collectif Yanamar est créé en janvier 2011 par un groupe d'amis, rappeurs et journalistes, lors d'une coupure d'électricité nocturne. Alors qu'ils sont réunis dans un appartement des Parcelles Assénies, un quartier populaire de Dakar, la lumière disparaît et le mot est lâché. Yanamar. Lorsqu'elle revient, le mouvement est créé. Contre les coupures et les pénuries, contre la vie chère, contre les dépenses publiques inutiles et les services publics indigents. Et surtout, contre cette classe politique corrompue et méprisante. Le mouvement devient l'un des fers de lance de la lutte contre la tentative du président d'être élu une troisième fois, et participe à sa défaite dans les urnes. Depuis lors, le collectif poursuit son œuvre en recherchant des manières de transformer profondément la société. Dans Afrique 21, le rappeur Tia explique à Claire Rivière:
depuis sa création, le mouvement a toujours dit que sa mission, ce n'était pas seulement la contestation. Il fallait qu'à côté, on ait un projet de société, qu'on a articulé sur des points qui s'appellent les chantiers du NTS, le nouveau type de Sénégalais. C'est le Sénégalais qui rompt avec le fatalisme, le défaitisme, l'attentisme, le pessimisme, avec le fait de penser que rien ne va marcher, que tout est la faute des politiques, etc. Comment changer cette mentalité ? Comment amener les gens à comprendre que pour que le pays change, il faut que chacun y mette du sien.
L'idée est aussi de se fédérer en communauté et de créer du lien à travers des activités collectives telles que la plantation d'arbres ou la rénovation d'écoles, mais aussi de tenir des assemblées en présence des responsables politiques et d'éduquer ou de questionner concrètement les pratiques, comme avec le projet Dox à Sagox, que l'on peut traduire par « marche avec sa communauté ». Abdou Khafor Kanji, responsable des projets, explique.
L'idée de ce programme, c'est de remettre au cœur de l'espace public les questions de citoyenneté et de gouvernance inclusive. Pour qu'il puisse y avoir un contrôle citoyen sur les élus locaux, il faut que les gens connaissent les compétences des mairies et des conseils départementaux. Le plus souvent, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Déjà parce que nos textes officiels sont libellés en français, une langue que nous sommes beaucoup à ne pas maîtriser. Mais aussi parce que notre administration a gardé un aspect colonial qui fait que l'accès à l'information est verrouillé. On se retrouve donc avec des maires qui octroient frauduleusement des terrains, qui détournent de l'argent et créent des emplois avant tout pour leurs clients politiques. Pour que cela puisse changer, il faut aider les populations à aller vers l'information, à connaître les compétences des collectivités pour pouvoir leur demander des comptes.
La liberté n'a pas de prix, et c'est pour elle que l'on crie. Libérer les innocents, c'est éviter le bain de sang.
Une fois la loi d'amnistie votée, malgré son rejet par l'opposition, a aussi lieu la libération des deux opposants les plus célèbres à Macky Sall, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui est donc le candidat de la coalition qui s'est fédérée autour du Pastef et l'un des favoris du scrutin. Ils sortent de prison le 14 mars, soit 10 jours avant le scrutin et en plein milieu d'une campagne particulièrement courte. Leur libération provoque la joie de milliers de Dakarois et de Dakaroises qui descendent spontanément dans les rues de la capitale. La route qui mène à la prison où ils étaient incarcérés se remplit de voitures, de scooters et de piétons alors que la nouvelle se répand sur les réseaux. Auprès du domicile d'Ousmane Sonko, c'est la liesse populaire qui accueille l'ancien leader du Pastef. Dès le lendemain, les deux anciens prisonniers partagent la scène d'un meeting et lancent la deuxième partie de la campagne de la coalition. Leur programme politique se revendique d'un panafricanisme de gauche. Il recoupe la lutte contre la malgouvernance et la corruption, un certain renouveau institutionnel avec une réduction des prérogatives du président de la République, un renforcement du pouvoir du Conseil constitutionnel et de l'indépendance de la justice, l'augmentation du budget de l'agriculture, le développement plus inclusif du pays, notamment en matière d'emploi des jeunes, enfin la volonté de sortie du franc CFA et d'un soutien à la création de la monnaie commune de la CDAO, l'ECO. La coalition fait également part de son intention de renégocier les contrats liés à l'exploitation du pétrole, du gaz et des mines, notamment celle qui doit commencer massivement au large des côtes. Elle pointe enfin du doigt le récent accord avec le FMI, car il implique de diminuer les subventions d'État à différents secteurs, ce que le PASTEF juge comme une ingérence. Abdourahmane Diouf, de la coalition Diomaye Président, estime:
le Sénégal est un pays souverain qui décide des secteurs de son économie à subventionner ou non. Nous avons vu les effets négatifs des programmes d'ajustement structurel sur nos économies. Ce modèle de partenariat est à bannir.
À l'heure de boucler cet épisode, le Sénégal vient de voter. Le soir même, les rues du pays sont à nouveau le théâtre de scènes de liesse. Car même si les résultats définitifs ne seront annoncés qu'en milieu de semaine, les premières estimations placent Bassirou Diomaye en tête avec 57% des voix. C'est-à-dire qu'il pourrait être élu dès le premier tour. C'était le 12e épisode de l'Actu des Oubliés. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'infos sur nos sources et sur les musiques entendues, rendez-vous sur notre audioblog. Belle semaine à tous et à bientôt. Yeah,